Au micro, Daniel Lamotte pour l'Atelier littéraire. Ravi de vous retrouver pour une émission très spéciale avec Laurent Vergne et la librairie Les Raconteurs d'Histoires, avenue des Termes à Chamalières. Laurent Vergne est libraire indépendant. Nous allons l'interroger sur ses souvenirs de lecture. Il nous conseillera également quelques livres à lire absolument. Tout d'abord, je me suis demandé si ce que j'ai personnellement connu dans mon enfance existait encore aujourd'hui pour les petits. Par exemple, les albums de Babar.
Pour ce qui est de la petite enfance, moi, je me souviens pas exactement de ce que j'ai lu à ce moment-là, peut-être effectivement des babars, mais je me rappelle d'avoir eu un gros recueil, peut-être offert par une tante, un oncle, je ne sais pas, un gros recueil d'histoires classiques, de contes, de Grimm, de Perrault. Il devait peut-être y avoir aussi des Fables de La Fontaine, des choses comme ça. Je me rappelle de ce livre, c'était un gros livre, alors quand on est tout petit, c'est impressionnant, tous ces gros livres. Et après, avec là un peu plus d'âge, je me rappelle d'avoir pris, alors là c'était plutôt des bandes dessinées, c'était plutôt des Tintins, des Picsou, des choses comme ça. Voilà un peu mes lectures de tout petit. Et à l'école, je me rappelle, il y avait la bibliothèque. Moi, je viens d'un petit village, donc c'était une petite école rurale. Hein. Un petit village rural dans le Sancy. Donc, il y avait au fond de la classe, en CP, CE, il y avait la bibliothèque de la classe. Et le plaisir, c'était de faire des belles dictées, de écrire bien. Comme ça, j'avais le droit à des images. Je me rappelle, des images, et j'avais le droit de prendre un livre. Et je me rappelle un des premiers livres que j'ai vu dans la bibliothèque verte, ce qui existait à l'époque. Alors, c'était, je me rappelle plus du titre exactement, c'était Alick le phoque. C'est une histoire d'un petit phoque, voilà. Et je me souviens de la couverture encore avec une peinture d'un phoque, etc. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça a commencé pour moi, mon amour de la lecture, en fait.
Une passion qui commence peut-être avec le Club des Cinq.
C'est ça, parce qu'après, avec la Bibliothèque Verte, il y a le Club des Cinq, il y a tous les classiques, on va dire, aménagés, parce que, en fait, moi à l'époque, je ne le sais pas, mais on le saura plus tard, c'est que c'est des livres abrégés, en fait. Donc, c'est Robinson Crusoé, c'est les Jack London, c'est-à-dire c'est Croc-Blanc, c'est L'Appel de la Forêt, c'est des Jules Verne. Je me rappelle d'avoir lu, relu, relu. Donc, les Robinson Crusoé, si je l'ai lu 30 fois. Je ne l'ai pas lu. Et Jules Verne, c'était L'île mystérieuse. J'ai dû le lire, oui, 15 fois, 20 fois, des choses que j'adorais lire, franchement.
Alors, je ne sais pas si à cet âge tendre, aujourd'hui, on s'intéresse aux mêmes lectures. Je pensais peut-être que les mangas étaient très à la mode.
Alors oui, en ce moment, il y a une vraie engouement, il y a un vrai engouement, il y a un fort engouement pour les mangas, et avec des classes d'âge plus jeunes. Les mangas, ça existe depuis toujours, en fait, mais ça a explosé en France depuis une vingtaine d'années. Et je me souviens que moi, quand j'avais 25 ans, il y avait déjà des mangas, mais c'était pour adultes. Et là, maintenant, là, ça fait quelques années que les mangas s'adressent aux enfants. Et effectivement, c'est une explosion phénoménale. Moi, ici, à la librairie, j'ai beaucoup de demandes, mais je ne fais pas les mangas. Je ne les fais pas en stock. Il faut les commander. Et après, il y a encore quand même beaucoup d'enfants qui lisent des romans. Et l'indépassable, le vrai classique qui est maintenant installé, c'est Harry Potter. C'est le nouveau classique, c'est-à-dire que maintenant j'ai des petites de 7 ans, à partir de 7 ans, qui peuvent lire le premier tome. Et après, autour de 10 ans, oui, il y en a qui ont lu toute la saga Harry Potter.
Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas regarder simplement les films?
Ah, alors, les enfants ont déjà vu les films, mais ils sont d'autant plus curieux du livre et encore plus, comment dire, plus accrochés avec les livres. Parce qu'il y a plus de choses. Les films, ils ont été obligés de simplifier l'intrigue, de simplifier les personnages, etc. Tandis que dans le livre, il y a vraiment tout. Il y a tout l'univers retranscrit vraiment. Et je pense que les enfants, ils accrochent vraiment. Et tout ce qui est le côté magique, le côté quête initiatique, qui est peut-être un peu standardisé dans les films, dans les livres, pas du tout. Donc ils ont de quoi rêver finalement. Je pense que c'est devenu le nouveau classique. C'est cette une façon d'écrire finalement, elle est assez classique et c'est la quête de l'inconnu. Et ça marche parce que c'est finalement intergénérationnel, que l'enfant soit d'aujourd'hui ou de hier, il y a toujours les mêmes choses, les mêmes recherches.
Nous allons avancer dans le temps, par exemple au lycée, en fin de cycle secondaire, avec les lectures qu'on vous imposait.
Ah oui, voilà. Aïe. J'ai peu de souvenirs. Alors, au lycée, j'ai peu de souvenirs. Au collège, j'avais une prof de français qui était très classique. Enfin, très classique dans le sens de la pédagogie. Mais en même temps, elle était capable de nous faire étudier des textes très contemporains. Donc, c'était ça qui était bien, c'est qu'à la fois, on a étudié Molière, Maupassant, et en même temps, Joseph Kessel, Elsa Triolet, des auteurs plus récents, on va dire. Au lycée, comme c'était quand même très axé sur le bac de français, tout ça, je n'ai pas des souvenirs formidables.
C'était trop contraint.
C'était de la contrainte. Et je pense que j'ai fait comme tous les lycéens et comme tous les ados, grands ados que je vois aussi à la librairie, c'est-à-dire que j'ai plus lu. J'avais autre chose à faire. Et c'est après, la lecture m'est revenue. Enfin, je m'avais vraiment quitté. Mais enfin, voilà, l'envie de lire m'est revenue plus tard, à la fac. Parce que j'avais plus de temps, peut-être. Donc, à la fois, les livres qui étaient conseillés par les professeurs. Moi, j'ai fait de la géographie, donc des livres de géographie. Mais en même temps, la découverte d'un style, d'un genre, c'était les romans policiers. On avait lu Agatha Christie, des trucs comme ça. Mais là, vraiment, ce que j'ai découvert, c'est le polar américain. Et j'ai découvert un auteur qui est mort il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Tony Hillerman, qui était un auteur de policiers spécial, c'est-à-dire que ses personnages principaux, ses héros récurrents, c'était deux enquêteurs de la tribu Navajo aux États-Unis. Donc, toutes ces enquêtes, toutes ces intrigues se situaient sur la réserve indienne. C'était les régions de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, ces coins-là. Et ça m'a passionné. Je me rappelle d'avoir lu toute la collection, tous ces livres. Tony Hillerman était un anthropologue. Donc, dans ses romans, il y avait non seulement l'intrigue policière, mais en même temps, il y avait l'étude de la société Navajo, de leur tradition, de la culture Navajo. Et ça m'a plu. Et ainsi de suite, en découvrant cet auteur, j'en ai découvert d'autres, puisqu'il y avait des bibliographies qui m'ont déconseillé à d'autres libraires quand j'allais acheter mes livres. Et j'ai découvert d'autres auteurs, et notamment un de mes auteurs de chevet qui s'appelle Jim Harrison, qui a été une découverte extraordinaire. Je devais avoir, oui, 20 ans quoi, à la faculté, étudiant. Et pareil, là, j'ai lu tous ces livres.
En d'autres termes, on peut dire que des auteurs de policiers peuvent être de très grands écrivains.
Ah mais tout à fait, j'en suis persuadé. Il y a des auteurs même qui commencent par écrire des policiers, donc la série noire on va dire, et qui passent à la série blanche pour paraphraser Gallimard. De très bons auteurs, oui. Par exemple, je me rappelle d'un auteur qui s'appelle Denis Lehane, qui est un auteur américain, qui a commencé à faire des polars très noirs, très sombres, et qui depuis quelques années maintenant a délaissé ce côté roman policier pour basculer dans le roman classique. Et c'est un formidable observateur de la société américaine, mais la société occidentale, en fait. Sa vision de la famille, sa vision de la société est très aiguë et vraiment très intéressant.
Aimez-vous l'humour de Patricia Highsmith ?
J'en ai beaucoup moins lu. J'ai un peu zappé cette époque, j'en ai entendu parler beaucoup. Il faudrait peut-être qu'un jour, je m'y mette, oui, pourquoi pas.
Vous écoutez l'Atelier littéraire. Je vous rappelle que nous diffusons aujourd'hui un entretien avec Laurent Vergne, libraire à Chamalières. Laurent Vergne, après les études, peut-être les voyages, les récits de voyages.
Ça a été une découverte là aussi. J'avais entendu parler effectivement de grands voyageurs. Je me rappelle d'avoir découvert Nicolas Bouvier dans son livre qui s'appelle L'usage du monde, qui est vraiment le classique du récit de voyage, où dans les années 50, avec un ami peintre, ils sont suisses et ils partent pour le Japon. Mais ils partent en voiture, avec une vieille Fiat Topolino. Ils vont suivre les routes d'Europe centrale, la Turquie, l'Iran. Alors l'Iran, à l'époque, ça s'appelle la Perse, l'Afghanistan, l'Inde, etc., etc., pour aller jusqu'au Japon avec leur vieille bagnole. C'est vraiment un classique, c'était vraiment une découverte. Et après, je découvre un auteur, je redécouvre, parce que je connaissais le livre Le Lion, je découvre Joseph Kessel avec un titre fabuleux qui s'appelle Les Cavaliers, où il raconte les tribus pachtounes d'Afghanistan. C'est un des bouquins, je crois, qui m'a le plus marqué. J'ai dû le découvrir, oui, peut-être à 25 ans, quelque chose comme ça. Moi, je pensais que Kessel, ouais, c'était le lion, c'était un peu plan-plan. Voilà. Et puis d'un seul coup, je trouve la force, la maestria de Kessel dans ce livre qui nous embarque une fameuse partie de ce qu'on appelle là-bas le bouskashi, c'est-à-dire c'est une partie comme du polo avec des chevaux et une tête de mouton. Où les gens se passent des têtes de mouton ou s'arrachent les têtes de mouton pour les porter dans l'embute, une sorte d'embute sur un terrain de jeu, ce livre Les Cavaliers. Et je pense que je ne suis pas le seul pour en avoir discuté avec d'autres clients à la librairie. Ça fait partie des grands classiques du récit de voyage ou du livre de voyage du XXe siècle, c'est sûr.
Cette histoire de tête de mouton ou de bélier me fait penser à la tauromachie.
Ah! Le bouskashi, c'est vraiment un combat entre hommes, entre tribus, pour prouver sa valeur. La tauromachie, c'est plus entre l'homme et l'animal, je dirais. Là, le bouskashi, c'est l'honneur surtout. C'est des tribus pachtounes, elles sont très orgueilleuses, très arrogantes sur la façon de monter à cheval, des choses comme ça. Et donc là, c'est la prééminence d'une tribu par rapport à l'autre.
Avec la tauromachie, je pensais à Ernest Hemingway, qui a beaucoup fait voyager ses lecteurs.
Moi, je suis peut-être moins sensible à la tauromachie, justement, à ce côté un peu chez Hemingway. Je crois que je préfère quand même, il est très classique, mais ça sera Le Vieil Homme et la Mer. Je crois que ça reste indépassable quand même.
Avez-vous des personnes qui vous réclament à tout prix des récits de voyage et uniquement des récits de voyage ?
Quelques-uns, pas beaucoup. Pas beaucoup, je dois le reconnaître. J'ai quand même une clientèle qui est plus axée sur le roman, sur la fiction. Donc. Mais si je peux, en discutant, en conseillant un client, lui faire prendre un petit récit de voyage d'auteur comme qu'on connaît bien maintenant, qui s'appelle Sylvain Tesson ou d'autres, j'essaie. J'essaie de convertir.
Puisqu'on parle de roman, que conseillez-vous ?
En ce moment ?
En ce moment, ou d'une manière générale, d'une manière intemporelle ?
J'ai des auteurs qui me fascinent. Et notamment, je le vois parce qu'il est en face de moi. En ce moment, je trouve que c'est une écrivaine nord-américaine qui s'appelle Louise Erdrich, qui est connue maintenant, qui a gagné tous les prix aux États-Unis, qui est pour moi la plus grande écrivaine en vie américaine. Elle est métisse, amérindienne et blanche. Et elle raconte des histoires qui se passent dans le Dakota du Sud et du Nord. Donc, c'est vraiment le fin fond de l'Amérique rurale. Et ses livres sont à travers un style qu'on pourrait croire au premier coup très simple, mais en fait très recherché, donc très classique finalement, très littéraire, Elle raconte l'histoire des peuples amérindiens spoliés de leurs terres, spoliés de leurs traditions, avec beaucoup de crises économiques, de crises sociales, etc. C'est très très beau, c'est très intéressant. Vraiment, moi, c'est l'auteur que je conseille, que j'adore. Du côté francophone, moi, il y a des auteurs dont je ne loupe aucune sortie. Par exemple, c'est Éric Vuillard. Je trouve qu'il écrit très bien. Il écrit des récits. C'est pas marqué roman parce qu'il se sert d'une base historique à chaque fois. Des auteurs comme Jean Rollin ou Olivier Rollin, ce sont des romanciers du voyage. Ce n'est pas des écrivains du voyage, je vous dirais que c'est des romanciers du voyage. Ils se servent de leur voyage pour écrire des romans. Et un auteur aussi que j'aime beaucoup parce qu'il est fou, mais c'est ça qui est génial, c'est Philippe Janada, qui a une manière d'écrire très hors norme. Son écriture est faite de digressions, souvent. Beaucoup de digressions dans la digression, dans la digression. C'est très drôle, c'est très documenté. Franchement, ça fait des gros pavés à lire, mais c'est génial.
Et le cas Welbeck.
C'est plus nuancé. Moi, j'ai lu les premiers Welbeck, je les ai trouvés très intéressants. Et puis, au fur et à mesure, j'ai trouvé beaucoup moins intéressants. J'ai laissé tomber. Oui, j'ai lu les trois premiers romans et après, j'ai laissé tomber.
Avez-vous des demandes en poésie?
Oui, un petit peu, un petit peu. À Chamalières, il existe des associations d'amis de la poésie. Il y a la Semaine de la Poésie, il y a le Cercle Amélie Murat, qui a une demande, effectivement, de poésie contemporaine. Et je remarque aussi depuis peu, un an ou deux, des jeunes femmes, ou des jeunes, mais plutôt des jeunes hommes, mais plutôt des jeunes femmes, qui sont en recherche de poésie et de poésie contemporaine. Je pense au recueil de poésie de Cécile Coulon. Je pense aussi à des auteurs comme Thomas Vinot ou Joseph Pontus, Joseph Pontus peut-être à part. Des jeunes auteurs qui commencent à intéresser de jeunes adultes. Et c'est très intéressant, vraiment très intéressant.
Vous est-il arrivé de devoir mettre à la porte un lecteur trop accroché à son livre dans vos rayons?
Non, jamais. Jamais, au contraire, j'aime bien ça, moi, quand un lecteur est accroché, ça veut dire qu'il aime. Et moi, j'ai été pareil quand j'étais plus jeune, quand j'étais de l'autre côté du comptoir, si je peux dire.
Même à l'heure de la fermeture.
Ah, alors après, l'heure de la fermeture, c'est sacré, donc.
L'atelier littéraire, c'est fini pour aujourd'hui. L'atelier littéraire, une émission de Daniel Lamotte présentée par lui-même et mise en onde par
Mehdi Maguer.